Chapitre 70. Un jour, nous viendrons nous asseoir près de toi dans la maison de Dieu. Août 1996. Philippe est ressorti de chez Geneviève Magnan plus malheureux que les pierres. Drôle d'expression que son oncle Luc employait souvent. Il avait roulé jusqu'au cimetière. Il y avait un enterrement ce jour-là. Les gens étaient regroupés sous la chaleur, par grappes, loin de la tombe de Léonine. Il n'avait pas apporté de fleurs. Il n'en avait jamais apporté. D'habitude, c'est sa mère qui s'en occupait. C'était la première fois qu'il allait la voir seule. Il venait deux fois par an, toujours avec ses parents. Son père et sa mère se garaient devant la barrière, ne rentraient plus de peur de croiser Violette, d'affronter son désespoir. Lui, en bon fils, s'asseyait à l'arrière de la voiture comme lorsqu'il était enfant et qu'il partait en vacances. Que la banquette lui paraissait immense, mais qu'au bout du voyage, il y avait la mer. Philippe s'était toujours dit qu'il était fils unique parce que ses parents n'avaient fait l'amour qu'une fois, par accident. Philippe s'était toujours dit qu'il était un accident. Son père, voûté par le chagrin et par des années de vie avec sa femme, conduisait mal. Freinait, on ne savait pas pourquoi. Accélérait, on ne le savait pas davantage. Roulait à gauche, puis à droite. Doublait quand il ne fallait pas, ne doublait pas dans les lignes droites, se perdait trop souvent, semblait ignorer les panneaux indicateurs. La route entre la barrière et le cimetière paraissait interminable à Philippe. La première fois qu'il l'avait faite, il avait senti l'odeur de cramé alors qu'ils étaient encore à des kilomètres du château. L'air empestait comme après un énorme incendie. Il s'était d'abord arrêté devant les grilles du château pour se garer. N'avait pas osé entrer tout de suite. Était resté prostré tous les trois, comme ça, dans la voiture. Puis, ils avaient marché 200 mètres jusqu'à la bâtisse imposante, noircie et détruite sur l'aile gauche. Il y avait des pompiers, des policiers, des parents hébétés, des élus. Une confusion dans l'horreur. Beaucoup de silence, des gestes sonnés comme gelés. Chaque chose au ralenti, pas vraiment ressenti, vu de loin, enveloppé dans du coton, de la ouate. Comme quand le corps et l'esprit se séparent pour ne pas lâcher. Que la réciprocité est trop lourde à porter. Le poids de la douleur. Philippe n'avait pas pu s'approcher de la chambre 1. Tout le périmètre avait été bouclé. Une phrase de série américaine en Bourgogne et dans la vraie vie. Des lignes de plastique rouge pour délimiter l'horreur. Des experts scrutaient le sol et les murs, prenaient des photographies, étudiaient le cheminement du feu, réécrivaient l'histoire en explorant des points explicites, des preuves, des indices, des marques. Il fallait un rapport précis pour le procureur. On ne badinait pas avec la mort de 4 enfants. On allait punir. Est condamné. Il avait entendu beaucoup de « Je suis désolé, nous sommes désolés, toutes nos condoléances, elles n'ont pas souffert. » Il n'avait pas vu le personnel du château, ou bien peut-être, mais il avait oublié. Les autres enfants, les chanceuses, les épargnés, étaient déjà repartis. On les avait évacués en urgence. Il n'avait pas eu à identifier le corps de Léonine. Il n'y en avait plus. Il n'avait pas eu à choisir de cercueil ni de texte pour la cérémonie, ses parents s'en étaient occupés. Il n'aurait donc rien à choisir. Il avait pensé « Je n'ai jamais acheté une paire de chaussures, une robe, une barrette, des chaussettes pour ma fille. C'est Violette qui faisait ça, qui aimait faire ça. » Mais pour le cercueil, Violette ne serait pas là. Violette ne serait plus là. Il n'aurait donc à s'occuper de personne. Le soir, depuis l'hôtel, il lui avait téléphoné. C'est la Marseillaise qui avait répondu. C'est ainsi qu'il appelait Célia. Il s'était souvenu qu'il lui avait demandé de venir. Violette dormait. Le médecin était passé plusieurs fois pour lui administrer un calmant. L'enterrement avait eu lieu le 18 juillet 1993. Les autres, ils se tenaient par la main, par le bras. Ils se soutenaient. Lui n'avait touché ni parlé à personne. Sa mère avait essayé, il avait eu un geste de recul, comme quand elle voulait l'embrasser lorsqu'il avait 14 ans. Les autres, ils avaient pleuré, hurlé. Les autres, ils étaient tombés. Il avait fallu ramasser des femmes qui ployaient comme des roseaux les jours de grand vent. Pendant l'enterrement, on aurait pu croire que toute l'assemblée était ivre. Plus personne ne tenait debout. Lui s'était tenu droit, sans larmes. Et puis, dans la foule immense amassée autour de la tombe, il l'avait vue, toute de noir vêtue, très pâle, les yeux dans le vague. Qu'est-ce que Geneviève Magnan foutait là? Il avait éludé, il n'avait plus le cœur à rien. Il avait eu le cœur pour Françoise, il avait eu le cœur pour Violette et Léonine. C'était terminé. La seule chose qu'il avait traversée mille fois durant ces 4 jours en Bourgogne, c'était « Je n'ai même pas su protéger ma fille. » Après, les autres, ils partiraient en vacances. Après, les autres, ils resteraient là, dans ce cimetière de malheur. Et lui rentrerait dans la voiture de ses parents, sur la banquette immense, et au bout du voyage, il n'y aurait pas la mer, mais Violette et son chagrin incommensurable. Une chambre vide, une chambre rose qu'il avait toujours désertée, d'où sortaient les rires et les mots que Violette lisait chaque soir. 3 ans après ce drame, seul devant la tombe de sa fille, il n'avait rien dit, pas prononcé un mot, une prière pour elle. Pourtant, des prières, il en connaissait. Il avait été au catéchisme. Il avait fait sa communion solennelle. C'est ce jour-là qu'il avait vu Françoise pour la première fois au bras de son oncle. Le jour où il avait récité en douce avec le grand frère d'un de ses copains en sirotant le vin de messe. « Notre Père qui est si creux, que ton nom soit empalé, que ton règne saigne, que ta volonté soit faite sur les teignes comme au peigne. » Donne-nous aujourd'hui notre vin de secours, pardonne-nous nos dépenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont enculés et ne nous soumets pas à la pénétration, mais délivre-nous du crâne. Amen. Ils avaient ri à en pleurer, surtout quand ils avaient enfilé leur aube par-dessus leur t-shirt et leur jean, qu'ils s'étaient moqués les uns des autres, t'as l'air d'un curé, et toi d'une gonzesse. Et puis il avait vu Françoise, et il n'avait plus vu qu'elle. On aurait dit la fille de son oncle, on aurait dit une grande sœur, on aurait dit une mère idéale, on aurait dit la perfection, on aurait dit un grand amour, on aurait dit son grand amour. Il avait eu envie de la revoir, et à force de la revoir chaque année, il avait encore plus eu envie de la revoir. 3 ans après le drame, devant la tombe de sa fille, il avait pensé qu'il ne reviendrait plus à Brancion-en-Chalon, puisqu'aucun mot ne sortait, puisqu'il était incapable de parler à Léonine. Il avait eu envie de reprendre sa moto et d'aller voir Françoise, de se jeter dans ses bras. Mais les années avaient passé et il fallait l'oublier. Il fallait retourner vers Violette, se mettre à genoux devant elle, la supplier, lui demander pardon, la séduire comme il l'avait séduite au début, avant la barrière et les trains, essayer de s'occuper d'elle, de la faire rire, lui refaire un enfant. Après tout, elle était encore si jeune, Violette. Lui dire qu'il allait trouver ce qui s'était réellement passé cette nuit-là au château. Lui avouer qu'il avait cassé la gueule à Fontanelle et baisé avec Magnan autrefois. Lui avouer qu'il était minable, mais qu'il saurait la vérité. Oui, lui refaire un gosse et de ce gosse s'en occuper. Peut-être aurait-il un garçon, un petit gars, son rêve. Et se tenir à carreau, ne plus aller coucher à droite, à gauche, déménager peut-être, changer de vie avec Violette. C'était possible de changer de vie, il avait vu ça à la télé. D'abord, il fallait retourner voir Magnan. J'aurais jamais fait de mal à des gosses. Pourquoi avait-elle dit ça? Il fallait y retourner pour lui faire cracher le morceau. Elle avait failli parler tout à l'heure, mais il avait refusé, pas prêt. Il avait regardé la tombe de Léonine une dernière fois, n'avait définitivement pas été capable d'ouvrir la bouche comme quand elle était vivante et qu'il ne lui disait déjà pas grand-chose, qu'il ne répondait jamais à ses questions. « Papa, pourquoi la lune est allumée ? En quittant la tombe de Léonine, en marchant vers la sortie à pas rapides, il les avait vus. Violette et le vieux dans l'allée. Violette le tenait par le bras. Philippe avait vu le mensonge. Il avait entendu sa mère lui dire « Ne fais confiance à personne, ne pense qu'à toi, à toi !» Il la croyait à Marseille, dans le cabanon de Célia. Il la croyait en pèlerinage, et elle était là, avec un autre homme. Elle souriait. Philippe n'avait pas vu Violette sourire une seule fois depuis la mort de Léonine. Pendant 6 mois, Violette était venue un dimanche sur deux dans ce cimetière. C'était donc cela. Elle empruntait la voiture rouge de la bécasse du casino pour faire croire à Philippe qu'elle allait sur la tombe de Léonine. Elle avait bien caché son jeu. Elle avait un amant, ce vieux. Comment l'avait-elle rencontré? Où? Un amant, Violette. Impossible. Il s'était dissimulé derrière une grande croix de pierre et les avait observés un moment. Ils avaient marché bras dessus, bras dessous, jusqu'à la maison située à l'entrée du cimetière. Le vieux en était ressorti vers 19h pour fermer les grilles. C'était donc cela. C'était le gardien de cet endroit maudit. Sa femme couchait avec le gardien du cimetière où était enterrée leur fille. Philippe s'est entendu rire, un rire mauvais, une envie violente de tuer, de frapper, de massacrer. Violette était restée à l'intérieur. Il l'avait vue à travers une fenêtre mettre la table pour deux, comme elle le faisait chez eux, un torchon noué autour de la taille. Ça lui avait fait si mal qu'il s'en était mordu les doigts jusqu'au sang. Comme dans les westerns qu'il regardait enfant, quand le cow-boy serre un morceau de bois entre ses dents pendant qu'on lui extrait la balle qu'il a dans le ventre. Violette avait une double vie et il ne s'était rendu compte de rien. La nuit était tombée. Le vieux et Violette avaient éteint les lumières, fermé les volets, et elle était restée à l'intérieur. Elle avait dormi là. Plus aucun doute possible. 2 mois auparavant, il avait interdit à Violette de retourner en Bourgogne. Quand elle lui avait parlé de la Magnan, qu'elle lui avait raconté qu'elle était allée la voir, il avait eu peur. Peur de se faire gauler. Peur que Violette sache qu'elle avait été la maîtresse de son mari. Celle-là même qui faisait la cuisine dans le château. Mais l'histoire était bien différente. Elle avait un amant. C'est pour ça qu'elle semblait plus légère l'éveil de départ. Un dimanche sur deux. Elle avait osé lui dire « J'irai au cimetière un dimanche sur deux. » Et lui n'avait rien vu. À présent, il comprenait pourquoi sa femme paraissait aller mieux de semaine en semaine. Il avait escaladé un mur pour ressortir. Il était tard. Il avait donné un grand coup de pied contre la porte côté rue, était remonté sur sa moto et parti comme un fou. Il devait être environ 22h quand il s'était retrouvé dans la rue de la maison où habitait la Magnan. Il y avait des flics à l'intérieur. Leur estafette était garée devant. Des voisines en robe de chambre parlaient sous les réverbères. Il s'était dit que Fontanelle avait dû la cogner trop fort. Philippe avait fait demi-tour et était rentré dans l'Est sans s'arrêter. En arrivant, il était allé directement à l'adresse, là où les corps étaient offerts.